Salut Marc, salut Smart, salut peuple le catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip et du masque, tiens, pourquoi pas, de temps en temps. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE, et d'ailleurs aussi parfois, mais aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement au show du lundi, au Monday Night Raw, le 1472e du nom, qui se déroule devant le public, Orlando, Florida, USA, à l'Amway Center, aux commentaires Byron Saxton, Corey Graves, Jimmy Smith, mais à la review, vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris ou tonton catch-up pour les intimes, et pour m'accompagner dans cette review pour analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS cet épisode du merveilleux monde du show rouge, eh bien, j'ai tout simplement décidé d'amener avec moi un archange. Un archange qui a déjà participé à une petite triple frite, il me semble, il n'y a pas très longtemps pour ce Monday Night Raw. Il a été aussi un invité prestigieux à You Talk Too Much. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour ce Monday Night Raw l'ami Géliel. Salut Géliel.
Salut tonton, et ben merci, merci de m'accueillir pour cette nouvelle review du Raw. On va partir.
Voilà, en tag team, là, tu vois, aujourd'hui, là, à moins qu'on ait peut-être une arrivée, on ne sait jamais ce qui se passe dans les reviews à catch-up. On ne sait jamais, quelqu'un peut survenir tout à coup. Mais là, on est bien à Orlando, on est bien en Floride, mon Géliel, et on va attaquer, comme c'était annoncé quelques heures, on va dire, avant Raw déjà, ça avait beaucoup, beaucoup fuité dans tous les réseaux. C'est Randy Orton qui va ouvrir la soirée. Il va être tout de suite rejoint par Riddle, qui vient lui expliquer tout de suite, qui lui manque, quoi, c'est les bros. Et voilà, maintenant qu'ils sont de retour, Riddle, pour lui, c'est quasiment clair comme de l'eau de roche, il faut reformer l'équipe. Hein. Et Orton, lui, il semble pas super décidé par tout ça, faire équipe avec lui après tout. Bon, voilà, ils ont eu des matchs, des t-shirts, ils ont fait un peu de buzz. C'était bien sympa tout ça, mais ça va pas plus loin, quoi. Lui, il est mieux quand il travaille tout seul, quoi. Il bouge mieux, en fait, quand il travaille tout seul, Randy Orton, quoi. Et du coup, il est assez reconnaissant envers le jeune homme, puisqu'il explique qu'il a regardé Raw ces dernières semaines, qu'il trouve que Riddle, finalement, il s'en sort très bien par lui-même, il n'a pas besoin de son aide. Au moment où on pense qu'il va y avoir une continuation d'explications, et c'est Edge, Styles et Omos qui vont venir les interrompre. Nos champions par équipe de Raw expliquent ce à quoi ils assistent, bah, c'est un peu embarrassant, quoi. Et Styles, il finit par demander à Riddle pourquoi il pense que Orton voudrait faire réellement équipe avec lui ou être son ami, ou il ferait mieux de s'en méfier, quoi. Mais Riddle, il reste à fond, hein. Il est à fond derrière Randy, rien lui fera lâcher Randy à Riddle de toute façon. Il dit à Styles de se la fermer. Styles va un peu se foutre de la tête, hein, de notre ami Riddle. Et puis il constate, il dit à Orton, vu que t'es un lutteur solo ce soir, pourquoi on s'affronterait pas ce soir en 1 contre 1 pour voir c'est qui le vrai boss de Raw. Et ouais, il est comme ça, AJ. Orton, il va accepter direct et il va dire à Styles, bien sûr, qu'il va le battre avec les trois lettres les plus dangereuses de l'histoire du business, le bon vieux RKO. On verra ça plus tard dans la soirée, puisque ça sera tout simplement notre main event de ce Monday Night Raw. Donc un opener assez rapide sur une prono un peu rigolo, toujours dans la continuité entre Riddle et Orton, les champions en titre qui viennent donner tout ça. Du coup, ça va un peu donner d'altercation, hein, dans cet opener sur la fin, quoi, parce qu'ils vont tenter un peu de passer des finishers, mais ils vont se faire bloquer les uns à la suite des autres. Donc on se donne rendez-vous dans le main event. Mon bon Géliel, qu'as-tu pensé de cette ouverture de ce show rouge?
Écoute, pour ma part, j'avais pas suivi forcément les dirt sheets ou les dernières infos, donc j'étais plutôt content de voir débarquer Orton.
Ok, donc c'était une surprise pour toi, du coup.
C'était une surprise pour moi, et alors c'était peut-être pas une surprise pour ceux qui étaient présents, mais en tout cas, il a reçu une belle pop. On a bien vu que ça lui faisait plaisir, puisque même les commentateurs ont quand même bien noté qu'il était quand même assez souriant et que bon, c'était pas normalement son gimmick, mais ça s'est vu qu'il prenait plaisir à revenir et à remonter sur le ring. L'interaction avec Riddle, sympa. On était content de revoir Riddle. Alors évidemment, pour lui, c'était juste une interlude de ce qu'il a les vacances d'Orton, et on allait recommencer exactement là où on s'était arrêté. Et c'était pas effectivement tout à fait ce qu'avait en tête Randy Orton. Après l'arrivée d'AJ Styles avec Omos, alors c'est vrai que il s'est quand même bien foutu de la tronche de Riddle et AJ Styles. J'ai bien aimé un moment quand il cherchait ses mots pour le définir exactement comment c'était embarrassant de le voir autant accroché à Orton. Donc le promo était sympa Et puis après, quand le j'ai aussi pas mal aimé quand ils se sont donné rendez-vous hein, pour le match 1 contre 1 avec Styles et Orton. Et j'ai pas mal aimé aussi quand Orton a parlé de l'ego d'AJ Styles qui était aussi énorme que ce trou du cul d'Homos, pour reprendre l'expression qu'il a dit. Il a dit jackass. Et c'était assez drôle, quoi. Donc le moment était sympa, l'arrivée de la tag team Homos Styles, et puis voilà. Et puis il y aura un petit bout de segment après qu'on va revoir,
on en reparlera. Ouais, j'allais en parler en fait, si tu veux, juste pour expliquer à nos auditeurs que ça allait être un peu une sorte de fil rouge, un petit peu ce Riddle Orton, et ils vont se retrouver en coulisses quelques minutes plus tard, après le match dont on va parler bientôt. Voilà, il cherche toujours à savoir s'ils peuvent toujours être amis, même s'il veut plus faire équipe avec lui. Il lui dit que t'as vu, je t'ai fait des t-shirts, je vais t'offrir une trottinette. Enfin voilà, il continue à mort la négociation avec l'Orton pour qu'il soit dans son coin, être dans le coin d'Orton ce soir, quoi. Et on va dire que Randy Orton, il a joué un peu, voilà, grand frère là, il refuse, il est. Mais on sent quand même. Enfin, moi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais déjà, dire qu'il y avait un espèce de petit sourire de contentement du Randy Orton tout au long de ce Monday Night Raw. On sentait qu'il kiffait bien, qu'il s'était bien repris de ses vacances, là, tout allait bien, et que ça le faisait bien marrer, bien kiffer d'être dans ce segment-là. Vu comment c'est over, et il s'est vite rendu compte avec la foule que c'était hyper over cette histoire. Je pense que c'est bien là l'essentiel d'ailleurs, non?
Carrément, hein, carrément. Tout le segment a été hyper suivi. Il y a eu un peu de hit à un petit moment. Enfin, vraiment, tout s'est passé comme attendu, et tout le monde était très content de revoir Orton, de revoir les deux tag teams. Et même le segment backstage dont tu parles après était assez sympa. Et je suis d'accord. Orton avait ce petit sourire qu'on lui connaît peut-être pas forcément systématiquement, ou qui est souvent un peu ironique ou même sardonique. Et là, on sentait qu'il kiffait aussi lui aussi d'être là, et comme je disais, hein, de revenir, quoi.
Ouais, la vipère qui fait la vibe, et c'était du coup bien sympa, quoi. Allez, on revient dans le sens du show, et le sens du show, c'est les aventures de Baron Corbin, parce que les Baron Corbin, ça ne lui suffit plus, SmackDown, il faut qu'il vienne à Monday Night Raw dès le lundi qui suit. Alors il est en pleine galère, hein, il est en pleine misère, hein, sa vie, d'ailleurs il le dit, sa vie actuelle elle est tout simplement misérable, quoi, et que comme il a pas de thunes, il est à Raw grâce au Brand to Brand Invitational. Alors ils ont remis ça à l'honneur, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à ça, et c'est Corbin qui va y avoir droit. Est-ce que c'est pour du bien? On va voir ça tout de suite. Il nous explique aussi qu'il a dû dormir dans un camion de la production, hein. Donc il est toujours dans un sale état, hein. Une barbe pas belle, une tête pas belle, une chemise pas belle. Enfin bref, Baron Corbin, il est au fond du trou, mais il creuse encore, parce que il va quand même tenter d'affronter un mec ce soir, et pas n'importe quel mec, parce qu'il va décider d'affronter le bel homme, le Drew McIntyre des familles, et il a pas le choix. Parce que apparemment ça sauverait de ses problèmes financiers. Donc ni une ni deux, on se retrouve avec un Drew McIntyre version Baron Corbin. Donc on nous met ça, on nous mixe ça un petit peu avec la rivalité qui se déroule actuellement avec les Indiens et avec Jinder Mahal. On va avoir un match de 9 minutes 50, une résistance que je n'attendais pas forcément de la part de Baron Corbin. McIntyre va être à quelques occasions en position de porter le claymore. Corbin, du coup, il va devenir, alors là il va tomber dans le pathétique absolu, hein, mon Géliel, hein, il va se mettre à genoux, quoi, et il va supplier en disant que voilà, il a plus rien, qu'il est désespéré. Les Cossais, il va lui prendre le micro, il va le traiter de pathétique, quoi. Mais bon, il se sent quand même un peu mal pour lui, quoi. Et McIntyre, il finit par lui demander carrément combien il a besoin pour ses prochains jours. Alors, moi, je trouve que c'est vachement bien, hein, tu fais ça en direct live sur un ring, c'est quand même cool, quoi. Donc le Corbin, il lui répond 100 000. McIntyre, il dit que c'est raisonnable, qu'il pourrait demander 200 000 ou 300 000, allez, pourquoi pas 400 pendant qu'on y est. Et puis finalement, il va porter son claymore sur Corbin. Hein. Voilà, 1, 2, 3, victoire de Drew McIntyre. Post-match, il va y avoir le trio, hein, Veer, Shanky et Jinder Mahal qui vont commencer à descendre la rampe. Mais McIntyre, il va aller chercher l'épée qu'il va brandir en l'air. Et t'as vu, ça suffit pour faire partir trois Indiens costauds quand même. Hein. Tu brandis une grosse épée de Highlander et tout de suite, ça calme tout le monde. Et les Indiens vont préférer ne pas rentrer sur le ring. Victoire de Drew McIntyre face à Baron Corbin qui n'a pas servi à grand-chose. Ou presque, mon Géliel. À part avoir 10 minutes à Raw quand même. Quand même, je le signale. Baron Corbin aura 10 minutes de match à Raw.
Ouais, mais alors match à sens unique, quoi. À aucun moment on a imaginé qu'il pouvait se passer quoi que ce soit. Hein.
On n'a pas tremblé.
Et alors par contre, j'aime bien le, enfin j'aime bien. Il est quand même bien rendu affreux au fond du trou le Corbin quoi, avec sa vieille barbe grisonnante qui devient un peu longue. Et en plus là, je sais pas comment il s'est coiffé, mais il a, enfin on voit que ça se dégarnit très franchement, sa chemise ouverte, etc. Là, on voit qu'il est vraiment, enfin il rend bien le personnage au fond du trou quoi, bien pathétique. Et effectivement, quand il vient s'agenouiller en serrant les mains pour demander. Pour demander pitié à Drew McIntyre, c'est aussi un moment assez drôle. Et j'ai bien aimé aussi comment Drew a joué avec ça. Bon, quand il dit, mais tu devrais pas se demander 1000, mais 100 000, mais 200 000, et puis 300 000, et puis qui, derrière, il a les trois doigts en l'air, et puis qui redescend en 3, 2, 1, et boum, il lui balance le gros Claymore pour la joie de tout le public. C'est vraiment, vraiment très sympa.
Ah oui, on peut dire que le public est totalement contenté, quoi.
Ah oui, oui, mais personne voulait que Corbin gagne de toute manière. Et là, le post-match, bah alors j'avais déjà dit la semaine dernière que j'avais bien aimé l'item épée dans le ring dont se servait Drew McIntyre. Alors son épée c'est pas Excalibur d'Arthur, mais en tout cas elle fait son effet. Les trois se sont carapatés quand ils ont vu Drew McIntyre en forme et avec l'épée. Donc voilà, segment. Alors j'ai trouvé ça un peu couillon parce qu'ils étaient quand même trois contre un seul, mais voilà, je sais pas si ça construit grand chose. Enfin, ça met pas bien Dinerman fort, mais bon, on verra.
Ouais, l'épée, moi aussi, moi je trouve c'est peut-être un peu too much quoi, quand t'es trois balèzes comme ça là, quand même bon, un mec avec une épée, au pire il va peut-être essayer de mettre un coup, mais bon, il faut y aller ouais. Quand même les mecs, il faut y aller pour aller à la bagarre. Mais du coup c'était pas. Ouais, c'est en plus, moi j'ai un peu du mal à comprendre finalement toute cette affaire autour de Baron Corbin, c'est assez délirant. Et puis finalement, bah écoute, il a pris une cartouche à SmackDown, il est venu prendre par Finn Balor, il est venu prendre une deuxième cartouche à Monday Night Raw par Drew McIntyre. Moi, je trouve que le point positif dans ce genre de match de mid-card finalement, c'est que ça permet de garder le babyface bien à l'aise avec le public, avoir une bonne pop bien sympa pour, tu vois, garder la hype autour de notre Écossais. Et puis Baron Corbin, finalement, bah, c'est un heel de mid-card qui fait pas grand-chose de mal, ni grand-chose de bien au final, mais qui sait obtenir de la hit. Et oui. Du coup, bah, là, ça passe bien avec toute l'année et demie, là, presque 2 ans qu'il vient de nous sortir le Drew McIntyre. Donc du coup, oui, mais... on continue doucement. Est-ce que tu crois, en fait, j'avais une question pour toi là-dessus, c'était tout simplement, tu crois dès SummerSlam, un Jinder Mahal versus Drew McIntyre en 1-1?
Bah, c'est mou là quand même, hein. C'est dans 15 jours, il ne s'est pas passé grand-chose, il n'y a pas encore eu de grosse interaction, il y a eu juste un avec un sbire, ils ne se sont pas encore touchés ni même approchés entre Drew McIntyre et Jinder Mahal. Ah, ça me paraît assis. Il y avait peut-être pour le. Non, mais il l'avait même pas fait pour le. Comment ça s'appelle, pour le Money in the Bank quand il était venu le chercher. Mais ouais, c'est léger, c'est léger. J'ai pas encore compris vraiment pourquoi il. Voilà, le but de la feud.
Ouais, ouais, c'est assez vague en fait. Et puis.
Mais ça raconte pas grand-chose, mais c'est.
Pardon, reste, non, vas-y, ouais, non, mais c'était juste pour dire, en fait, c'est qu'il reste, plus grand-chose. Il reste 2 Raw avant SummerSlam, là. Donc,
C'est ça.
S'ils veulent construire quelque chose, il va falloir aller très très vite quand même, quoi. Tu vois, c'est un peu le problème, ça. C'est quand tu forces comme ça sur une rivalité pour amener un match, bah, si tu construis quelque chose pour SummerSlam, c'est un peu dommage qu'effectivement il n'y ait pas eu un peu plus d'efforts de fait autour de tout ça, quoi.
Surtout qu'ils prennent 10 minutes pour faire le combat avec Baron Corbin, ils en prennent 5 et puis ils racontent 5 minutes d'histoire avec Jinder Mahal, et voilà, ça peut commencer à se construire. Là, il reste 20 secondes où ils font 3 mètres en dehors du titantron et puis ils repartent. Bon, on verra.
On verra la suite, effectivement. Allez, on continue. On va avoir un autre match qui est un rematch qui a eu un petit arrêt parce que notre ami catcheur de ce soir avait chopé le Covid. Et tout simplement, on a un match entre Karrion Kross et Jeff Hardy. Alors, Hardy, remis du Covid, donc d'attaque. Donc, dans un match de out of nowhere, puisque Karrion Kross avait collectionné la 2 matchs face à Kisty, apparemment dans l'attente justement du retour de Jeff Hardy. On va avoir droit à un match de 8 minutes entre les deux. Donc Cross, finalement, il est là pour prendre sa revanche puisqu'il avait perdu le premier et unique affrontement juste à présent qu'ils avaient eu, avec d'ailleurs une petite triche de notre Jeff qui avait mis les pieds dans les cordes pour gagner ce match-là. Hardy, il va faire un petit peu son show à l'habituel. Il va réussir à poser un diving splash de la seconde corde pour un compte de deux. Derrière, il va porter un jawbreaker. Il va à nouveau tenter de tomber, cette fois-ci en filoutant et en tenant l'élastique du slip de notre adversaire du jour, notre Karrion Kross. Mais à nouveau un near fall. Kross va finalement contrer le Whisper in the Wind avec sa Saito Suplex, que je trouve une très belle prise, qu'il porte très bien, avant de placer son Kross Jacket, que je trouve une prise totalement pourrie, pour contraindre Hardy à l'abandon. Et ce résultat va pas être suffisant hein, pour Karrion Kross, mon Géliel, parce qu'il va se décider à revenir sur le ring pour à nouveau porter sa soumission de merde à Jeff Hardy. Voilà, il veut s'imposer en patron, le Karrion Kross. Alors, quel effet ça te fait, toi, au-delà presque de la victoire anecdotique, finalement, d'avoir le champion de NXT complètement noyé en mid-card de Monday Night Raw pour affronter un adversaire comme Jeff Hardy, qui est un vétéran qui végète lui aussi dans la mid-card depuis plusieurs années maintenant.
Franchement, j'ai pas été emballé. Hein. J'ai vraiment pas trouvé ça top. En plus, enfin, mine de rien, je trouve que c'est Jeff Hardy qui fait quasiment le plus de trucs, le plus de moves. Ce qui est quand même un peu pathétique pour Karrion Kross. La fin, effectivement, avec son finisher pour avoir la soumission d'Hardy avec sa main derrière l'oreille, là, il y a personne qui peut lui dire. Il écoute pas ce pauvre Karrion. Faut vraiment lui dire. Donc, ça tombe un peu nulle part parce qu'il met 2-3 coups, 2-3 boots, et puis voilà. Donc je trouve même pas qu'il ait l'avantage sur le match tant que ça. Et puis il revient, alors on se dit c'est bon, il va lui mettre un gros passage à tabac. Non, pas du tout, il revient lui faire la même soumission pourrie qu'il avait fait 3 secondes avant, effectivement.
Ouais.
Je trouve ça sans intérêt, effectivement. Il est même pas montré ultra fort à dégommer le vieux Jeff Hardy. Hein. Il a bataillé. Enfin, moi, je trouve qu'il a bataillé pour le match.
Il a bataillé un peu, ouais. Pendant 8 minutes, il a bataillé un petit peu, ouais, quand même. Ouais. C'était pas un squash match, de toute façon, quoi qu'il en soit.
Ouais, donc déçu. Et puis, je suis pas hyper fan de Karrion.
Est-ce que tu suis NXT ?
Non, toujours pas. J'ai pas le temps. J'aimerais, hein, mais j'ai vraiment pas le temps.
Alors, justement, comme tu suis pas NXT, moi, ça m'intéresse. Quel effet te fait justement dans ces cas-là l'arrivée d'un Karrion Kross? Tu sais qu'il est champion NXT, mais tu ne suis pas le produit. Du coup, comme ça, ton premier rendu, ça a été quoi sur Karrion Kross quand tu l'as vu arriver?
Je l'ai trouvé random, vraiment. Je crois qu'on en a vu 4, 5, 6, 7, et comme ça, quoi. Je trouve même pas qu'il ait un physique de dingo. L'intro est sympa sans plus. Il n'a pas de gros moves extraordinaires. Et puis en plus, il a même pas un push terrible. Alors je comprends que Jeff Hardy, qui était prévu pour être le paillasson à son arrivée, qui s'est chopé le Covid, on a mis un peu Kisly dans la bataille. Mais non, vraiment, je suis pas du tout emballé, quoi. Il a même pas un style de catch particulier. Enfin, non, pas emballé du tout.
Ouais, bon écoute, moi c'est un peu pareil. Enfin, moi j'étais assez emballé par ce qu'il faisait à NXT, mais comme je ne comprends absolument pas son booking à Monday Night Raw. Même qu'il soit en place finalement dans la mid-card ou ailleurs, je n'y vois absolument aucun intérêt. Je pense que c'est pas une bonne publicité pour NXT ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, et vraiment pour moi ça c'est un gros échec, et j'espère que ça ils vont corriger le tir, parce que là si ça continue comme ça, alors il va y avoir NXT TakeOver 36 qui va arriver, donc Karrion Kross va remettre son titre en jeu face à Samoa Joe, si vous suivez un
oui.
peu. Moi je pense fortement que Karrion Kross va perdre son titre face à pour Samoa Joe, et qu'effectivement Karrion Kross là va avoir une montée définitive dans le main roster, sachant qu'il y a la draft la dernière semaine d'août, donc je pense que ça va être définitif, entériné, cette histoire de Karrion Kross, et puis on passera peut-être à autre chose. Mais moi je trouve que c'est pas le problème de Karrion Kross là finalement, c'est plutôt l'exposition de la ceinture de NXT, si tu veux, qui me pose problème. Et je trouve que c'est pas bon pour le show jaune et noir qui est déjà dans la difficulté.
Ouais, mais en plus il arrive en la brandissant, hein, donc.
Ouais, quand même.
Je comprends pas.
Moi non plus, mais pareil, je suis dans la même incompréhension que toi. Alors, écoute, qu'est-ce qui se passe après ça? Il se passe les affaires entre Alexa Bliss, Eva Marie et Doudrop. On revoit les images de Alexa Bliss et Lily qui faisaient perdre Eva Marie la semaine dernière, et Doudrop qui se vengeait en les attaquant. Du coup, ça nous emmène sur un match entre Alexa Bliss et Doudrop. Écoute, ça va être assez expéditif, hein, puisque ça va durer 3 minutes 30.
Et heureusement.
Alexa Bliss va être largement gênée par la présence de Marie aux abords du ring. Elle aura été quasiment dominée tout le match, enfin les 3 minutes 30 en tout cas. Lily va faire un clin d'œil qui va peut-être suffire à choquer Doudrop, quoi. Et Bliss va profiter de la distraction pour porter le roll-up de procédure. Victorieux, oui, oui, mes amis, oui, le roll-up. Alexa Bliss gagne par roll-up face à Doudrop. Marie va hurler encore sur Doudrop à la fin, pendant que Bliss va faire un câlin à la poupée. Enfin bref, on est tombé bien bas dans cette rivalité, mon Géliel.
Catastrophique. Mais alors, oh du là début là là là. À la fin. Vraiment, en plus, mal joué, enfin, affreux, quoi. Puis alors, le pauvre CGI, là, pour faire cligner l'œil de la poupée, là, oh là là. Une catastrophe, vraiment, de A à Z, quoi. Vraiment.
Ouais, ouais, il y a... Je ne peux que te rejoindre, il n'y a rien à en dire de plus, tout est là, voilà. Si tu cherchais un truc pour tes flops, il y en a un bon en plein milieu de ce Monday Night Raw. Allez, on passe à la suite avec le Miz et John Morrison qui sont en coulisses et qui ne sont pas contents hein, après Damian Priest, hein, qui les a déjà battus deux fois la semaine dernière en faisant deux fois le tombé sur Morrison. Là-dessus, il y a Sheamus qui va arriver, qui va dire à Miz et Morrison qu'ils sont mal habillés, hein, ils sont ridicules ces messieurs. Il va reprocher à Morrison hein, de l'avoir fait perdre la semaine dernière aussi. Le ton va monter hein, entre Morrison et Sheamus, hein, mais Miz va tenter de calmer tout le monde. Sheamus, il va nous expliquer qu'il va s'occuper ce soir de Ricochet, mais que Morrison a intérêt à faire le travail contre Damian Priest. Là-dessus, on nous embarque sur la fameuse et très contestée stipulation en ce moment, en tout cas très contestable, et surtout très contesté à catch-up, la fameuse situation du Contenders Match. Alors là, dramatique, voilà, on attaque, enfin avec un peu, on parle de ceinture et tout ça, mais malheureusement, on va avoir le fameux Contenders Match, donc le champion qui affronte un challenger, qui s'il gagne le match, peut obtenir un title shot. Donc en l'occurrence, c'est Sheamus qui va affronter Ricochet, notre Ricky la belle vie, dans un match... Ils se sont déjà affrontés à quelques occasions, donc du coup ils commencent à se connaître un peu les deux larsouilles, deux physiques totalement différentes, hein, vraiment notre ami irlandais mastoc comme pas possible et notre high flyer préféré de Monday Night Raw en tout cas me concernant, l'ami Ricochet, et on va avoir un match de 10 minutes 35 où ça va se prendre de la hauteur hein, et le Sheamus moi contre l'high flyer il m'épate toujours quoi, parce que ce mec est super safe. Je pense que les High Flyers doivent être super en confiance d'ailleurs avec lui pour bosser. Parce que ce gars, je sais pas, c'est pour moi, c'est un des catcheurs qui anticipe le mieux ce qui se passe entre les cordes. Et pourtant, des fois, avec lui, il y a des accidents. Et même à lui-même, ça lui arrive. Quoi. Puis, Remember son nez cassé qui date d'il n'y a pas longtemps. Et Sheamus, d'ailleurs, catch toujours avec un masque, hein, mine de rien. Quoi. Donc, c'était du sérieux. Le finish du match, ça va être un peu Ricochet qui va prendre de la hauteur et qui va vouloir porter un gros coup de tête à son adversaire. Sheamus. Va lui balancer le masque de protection, hein, je crois que c'est ça. Hein, et Ricochet va se retrouver un peu KO sur le coup. L'Irlandais va en profiter pour placer le Brock Kick pour le compte de 3. Là-dessus, Damian Priest, il va arriver ensuite pour son match qui suit. Quoi. Il fait quand même un bon face-off avec Sheamus qui va essayer de l'attaquer, mais Priest va le bloquer et va l'envoyer à l'extérieur. Là-dessus, on enchaîne directement sur le Damian Priest versus John Morrison, mais on va s'arrêter une seconde. Alors, Contenders match, Géliel, la sentence. On en a parlé déjà en fait en réalité la semaine dernière.
Ouais, tout à fait. Je suis pas fan de la stipu. Si il doit aller le chercher, c'est toujours plus intéressant de le faire d'être qu'il y a une espèce de compétition entre plusieurs contenders, ça fait des matchs, etc. Donc voilà, je suis pas fan de la stipu. Pour le match, par contre, enfin moi je l'ai trouvé vraiment super sympa. J'ai trouvé Ricochet que j'aime beaucoup, vraiment vraiment beaucoup, et enfin très très bien dans son match. Et là où je te rejoins sur le fait que Sheamus puisse être perçu comme quelqu'un qui soit assez safe, c'est que face à des high flyers comme ça, il a la puissance pour les rattraper à peu près dans toutes les situations. Les gars, ils pourraient se jeter sur lui la tête en bas, il est quand même suffisamment puissant pour les récupérer et les ramener sur une situation safe. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il doit jouer. En tout cas, l'alchimie, elle est vraiment sympa entre les deux, j'ai trouvé. Ça volait bien et je trouve que Ricochet a vraiment bien dominé des bons moments dans ce match-là. Donc 10 minutes vraiment sympas, qui sont vraiment super bien passées. Et victoire effectivement, mais très sympa. Moi j'ai beaucoup apprécié.
Moi, je te rejoins moi aussi le match. J'ai trouvé. Moi j'adore Ricky devant l'Éternel, mais franchement ils ont envoyé la marchandise tous les deux. Moi, c'est ce genre de match voilà, qui m'enthousiasme. S'il n'y avait pas eu cette maudite stipulation, j'aurais été beaucoup plus chaud. Parce que si tu veux, avec ce qui se passait, ce qui se tramait avec Damien Price, si tu veux, j'avais du mal dans une stipulation pareille à voir le pauvre Ricochet s'en sortir sur cette affaire-là. Donc,
c'était plié. Mais donc,
C'était plié. Mais si tu veux, c'est un des énormes problèmes avec cette stipulation. Quoi, et c'est sur laquelle je crise et je m'arrache les derniers cheveux qui me restent. Quoi. Parce que vraiment, non, ça, c'est pas possible, quoi. Après, j'avais une petite question pour toi. C'est, moi, on en parle de temps en temps, mais Sheamus, en 2021, c'est un, il est dans le top 5. Il fait une année 2021 monstrueuse, l'Irlandais, non ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Ah ouais. Et puis, vraiment. Et en plus, il fait des gros, gros matchs, quoi.
Ah oui, oui,
il
oui.
Il fait
oui,
des
oui.
gros, gros matchs. Il est dans des feux de hyper intéressantes. Enfin, j'ai encore... C'était à quel pay-per-view le match contre Riddle qu'il fait là, qui est quand même aussi super sympa tout le long. C'est là où on voit aussi que Riddle a passé une ou deux étapes entre son arrivée un peu rigolote et puis avec un in-ring qui était peut-être à peaufiner et le match contre Sheamus qu'il fait. C'est vraiment le match où Riddle prend de l'envergure et où Sheamus lui a un répondant de fou là-dessus, quoi. Et c'est super sympa. Et ouais, il est dans la même ligne. Que depuis 6-8 mois, même plus d'un an maintenant, quasiment, Sheamus est indéboulonnable de là où il est. Il va falloir aller le chercher, son titre, quoi.
Ah, ça, je te confirme, hein, il va falloir aller le chercher. Hein, et ça va pas être simple. Et d'ailleurs, on va continuer à en parler. Parce que donc, on a Damien Priest qui affronte John Morrison ce soir. Alors, pareil, il se cherche aussi hein, depuis plusieurs semaines, si vous nous suivez ou pas. Alors là, on va avoir un match moins dans la veine que celui d'avant, quoi, puisqu'on va avoir un match qui va être assez court, qui va durer 4 minutes, qui va surtout être marquant par le fait du Miz qui est dans sa chaise roulante aux abords du ring comme depuis plusieurs semaines maintenant et qui va pas arrêter d'interférer dans cette affaire. Morrison, il va prendre de l'élan quand même sur la prone pour tenter un saut, mais Priest va le sécher avec un bon coup dans la mâchoire. Priest, il va se positionner pour coller son recoin-in, mais il va s'arrêter en fait pour provoquer le Miz. Et Priest va porter son finisher quand même juste derrière pour l'emporter. 1, 2, 3, victoire de Damien Priest. Vraiment expéditif, j'avoue que j'étais vraiment étonné des 4 minutes de match. Et Priest va ensuite descendre du ring. Il va se rapprocher du Miz qui est toujours en chaise roulante et qui supplie de pas taper. Et Morrison, il va à nouveau essayer d'attaquer Priest. Il va se faire à nouveau repousser. Priest va prendre le spray du Miz et il va le vider sur Morrison. Il va attraper le Miz par le col et le Miz, au miracle, peuple de catch-up, il va se lever de sa tête roulante et l'homme va se lever et va marcher exactement au grand dam de Damien Priest puisque qu'est-ce qu'il va faire pour marcher ? Il va fuir. Donc on sent bien que déjà, un, la blessure de Miz semble totalement rétabli. Deux, il a quand même un peu les foies face à Damien. et trois, John Morrison sert un peu de chair à canon dans cette histoire. Au final, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est à ce moment-là ? Non, c'est un peu après en fait. Ah oui, j'allais m'avancer un petit peu dans ce qui se passait. Qu'est-ce que tu penses du coup, Géliel ? On va attaquer directement par ça. Là, le Damien Priest versus John Morrison et la résurrection du Miz.
Le miracle. Le match sympa. Enfin, je l'ai surtout trouvé sympa parce que j'ai l'impression. Alors, vous en parliez il y a quelques reviews. Je l'avais pas forcément constaté à ce point. Je trouve que il est bien à l'aise dans son perso, dans son positionnement, Damien Priest. Je l'ai trouvé vachement sympa au micro également. Le match, il est à sens unique, pareil, mais c'est pas très grave. Et donc vraiment, je l'ai trouvé souriant, communiquant avec le public. Quand le Miz se lève, il est en communion complète avec le public. Il montre le Miz, il rigole avec le public du Miz. Enfin, il y a vraiment une interaction sympa entre le public et et Damien Priest. Et je trouve qu'il, du coup, là-dessus, il a vachement progressé et ça rend le truc vraiment sympa. Et donc le Miz se barre effectivement en courant. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'effectivement il y a un segment micro avec Damien Priest qui parle au Miz ou à Morrison ou les deux, je me souviens plus. Et pareil, ce moment-là, ce segment-là, j'ai trouvé au micro plutôt bon, plutôt sympa. Donc j'étais un peu mesuré, mais là il m'a vraiment convaincu Damien Priest sur son in-ring, sur son micro et puis sur sa capacité à jouer avec le public. Et ça s'est bien rendu parce que Bon, alors le Miz qui se lève, évidemment, ça a fait beaucoup lever aussi le public, mais du coup, ça a été un bon moment de pop, quoi.
Ouais, c'était sympa. Bah, moi, écoute, moi, j'aimais beaucoup Damien Priest du temps où il était à NXT. J'ai trouvé que ça montait dans le main roster cette année, s'est passé progressivement. Il a eu quand même les honneurs de la star de WrestleMania avec Bad Bunny. Et ça lui a permis d'avoir quand même un gros spotlight, même, on peut dire un énorme spotlight à WrestleMania. Alors, je vais le dire tout de suite parce que du coup, Priest, il va challenger notre ami irlandais, hein, Sheamus, hein, pour le titre US. À SummerSlam.
Ah, c'est ça. Quand il est micro, c'est en in-ring, qu'il est encore dans le ring, c'est avec Sheamus, pardon.
Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, ça a été officialisé par la WWE sur Twitter. Et donc, on aura bien un Damian Priest versus Sheamus. Ça, c'est peut-être le petit truc. Je suis totalement pour ce match. Mais finalement, presque dommage de l'avoir booké ce lundi et pas attendre. Il restait encore 2 Raw là. Il y avait peut-être encore moyen de faire monter un peu la sauce. Mais bon, ils vont peut-être nous faire une signature, il va peut-être y avoir, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, on va dire que ce qui se passe du côté de la ceinture intermédiaire du titre US, c'est plutôt sympa. Ça va de mieux en mieux à Monday Night Raw à ce niveau-là.
Oui, et le match fait envie, quoi.
Ouais, le match fait envie. Finalement, la petite déception après sur ce Raw vraiment spécifique, c'est le Damian Priest, John Morrison, il nous file que 4 minutes. C'est un petit peu dommage dans un match qui aurait pu être beaucoup plus sympa et où il y a la capacité de te coller 10 minutes. Surtout quand on voit le match qui nous vient après mon ami Géliel, sans transition, puisque en ce moment, dans la tag team de la mid-card, on a les T-Bar et Mace et Mustafa Ali et Mansour. Ils se sont affrontés plusieurs fois déjà, en 2 contre 2, en 1 contre 1. Ils vont se réaffronter en 1 contre 1 ce soir puisque c'est Mustafa Ali qui va affronter T-Bar. Dans un match comme les autres, extrêmement rapide, qui va durer 3 minutes. T-Bar va coller son tornado DDT à son adversaire, mais Ali va casser le tombé en réussissant à poser le pied sur la corde. Mace, il va quand même s'en prendre pendant ce temps au pote Mansour, hein, qui est à l'extérieur. Il y a toujours les deux, chacun ringside. Donc, ils vont finalement se taper dessus eux aussi. T-Bar, il va réussir à coller son fist, Your Eyes. Alors, j'ai été étonné d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe qu'ils utilisaient encore cette appellation. C'était ce qu'ils utilisaient à NXT, le fist Your Eyes. Pour le compte de 3, victoire de T-Bar. Post-match, Mace va rejoindre T-Bar pour une espèce de tentative de teamwork sur Ali que Mansour va sauver. Mansour va finalement vider le ring et Ali a l'air plutôt surpris et content de voir que son coéquipier fait le ménage, nous fait un petit clean house. Mais malgré tout, victoire de T-Bar en 3 minutes sur Mustafa Ali, Géliel. On est chaud dans la mid-card de Monday Night Raw.
sur le ring sans doute, les spectateurs déjà, j'ai trouvé que c'était un peu moins
chaud.
Vraiment,
c'est tombé, ouais.
Et de mon côté, pareil. Vraiment, voilà, il y a juste l'arrivée à la fin de Mansour qui redonne un petit peu goût au public. Le match, il est indispensable. Tout le moment est pas excellent, quoi.
Ouais, c'est dispensable tellement qu'on l'a déjà oublié, quoi. Donc, ouais. On va revenir backstage avec le champion 24-7 qui fait un photoshoot, notre ami Reggie. La blague avec le 24-7, ça faisait un moment parce que ces derniers temps, à chaque fois, il le faisait venir sur le ring. Et là, il va avoir un segment backstage et Akira Tozawa qui va venir en filou déguisé en postier et qui va tenter le traditionnel roll-up pour le roll-up championship pour un compte de 2, raté. Il y a Ertus qui est là, qui est déguisé en homme de ménage et qui est venu pour en fait casser le tombé de Tozawa. Reggie va en profiter avec quelques cabrioles et quelques pirouettes pour prendre la fuite pendant que les deux autres se chauffent, hein, bien sûr, pas contents d'avoir raté leur coup. J'ai presque envie de te dire, Géliel, le retour du 24-7 backstage.
ouais, là, à nouveau le mode Benny Hill qui recommence en dehors du ring. Pourquoi pas? Enfin, faut pas que ça dure plus d'une minute trente, sur l'ensemble du truc, quoi. Mais pas trop. Je suis pas hyper fan du truc. Surtout que j'aime bien voir Reginald sauter partout quand il est dans le ring, par-dessus les troisièmes cordes et compagnie. Et alors que là, du coup, c'était un peu moins pratique pour lui, quoi.
Ouais, en mode Yamakasi dans les flycasts.
Ouais. Ça, c'est sympa quand il fait ça, quand même.
Ouais. Il est assez spectaculaire, ça. On peut lui reconnaître. Il n'y a pas de problème. Un autre qui est spectaculaire et surtout qui est champion, c'est Bobby Lashley. Bobby Lashley, il rejoint le ring avec MVP. qui va demander sous une grosse hit. Hein. Vraiment, Bobby Lashley, il incarne le méchant lui aussi. Hein. Alors, on a quand même Raw et SmackDown sont quand même dirigés par deux heels, hein, il n'y a pas à chier. Hein. Et puis deux monster heels, j'ai envie de te dire. Et chacun avec leur manager. Et MVP, lui, se charge grandement de l'affaire avec Bobby Lashley depuis presque un an et demi, hein, presque. On arrive bientôt aux deux ans, je pense. Ouais, on doit être à un an et demi là qu'ils ont créé le Hard Business, quoi. Donc, oui. MVP revient sur ce qui s'est passé la semaine dernière, sur le fait que Goldberg est attaqué par derrière et qu'il lui est collé un spear. Goldberg.
Alors, juste sur ce ouais. truc-là, après, ouais. il parle qu'il a mal partout, etc. etc.
Quand on voit
le spear au ralenti de Goldberg qui tombe par terre avant que MVP tombe par terre lui-même. Bref.
Ouais. Bref. Ouais, on en a causé en fait la semaine dernière de ça. Ouais. Ça, c'était un peu.
Aïe.
Alors MVP, il va dire que Goldberg c'est un menteur, hein. Il va l'accuser de mensonge, hein. que lui aussi, eux aussi sont père de famille, que jamais ils auraient été menacés son fils de 15 ans, il en est hors de question, c'est des papas. MVP voulait juste raisonner le fiston pour lui faire comprendre que son père, voilà, que Lashley il allait mettre fin à sa carrière à SummerSlam, qu'il fallait qu'il le comprenne, quoi. Et donc il est blessé, que le truc le plus dévastateur d'un spear de Goldberg, c'est bien un spear de Lashley. Donc, si Goldberg, il avait peur pour son fils, il n'avait qu'à pas l'amener à Raw. Et Lashley va prendre la parole quand même un peu pour lui dire que si ça lui va, si le fils veut voir son père être détruit à SummerSlam, allons-y, hein, go. Hein. Lors de ce show, Goldberg, il ne dira pas next, mais il dira clap de fin, quoi, hein, pour Goldberg. J'ai presque envie de le croire, hein, le Bobby Lashley, quand il dit ça. Hein, je n'ai pas de souci avec ça. Hein. Donc, promo du champion en milieu de show, un petit peu après, dans la fin du deuxième tiers, on va dire, de ce Monday Night Raw. Mon GLIL, est-ce que ça t'a pas paru un peu léger pour prolonger cette rivalité-là?
Si, surtout qu'ils ont vraiment insisté. Alors, peut-être qu'ils n'avaient pas grand-chose à dire, mais ils sont revenus 25 fois sur le fait de dire, de parler au fils Goldberg en disant « Faut vraiment que tu dises à ton papa qu'il vienne pas, hein, sinon il va se faire bobo à SummerSlam. Hein. » Et ils l'ont dit 3-4 fois chacun. Bon, voilà, la promo de MVP est pas mauvaise. Alors, il survend un peu, comme je disais, l'espèce de spire en mousse là qui s'est pris la semaine d'avant. Mais sinon, je sais pas s'il manquait peut-être une interaction, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, on a bien compris qu'ils étaient énervés, que Bobby Lashley était très énervé, et qu'il fallait surtout pas qu'il vienne ramener ses fesses Goldberg, parce que sinon, il allait en prendre un autre définitif. Voilà.
Ouais, mais ça va être assez expéditif, et effectivement, on n'aura droit qu'à cette promo dans le cadre du titre suprême de Monday Night Raw, et on se contentera de ça. Moi, j'ai trouvé ça, je te cache pas, pour le titre suprême du show, c'était un peu lèche, quoi, tu vois. Et j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus consistant. J'ai eu l'impression, c'était bizarre, ça a été collé. C'est l'antépénultième segment, c'est assez particulier. J'ai eu un peu du mal à piger, quoi.
Ce que je crains, c'est que ils aient pas voulu faire de confrontation physique. Et donc, du coup. Si c'est pour faire un énième face-off où ils se regardent méchamment dans les yeux après que Goldberg ait poussé MVP, ouais, mais peut-être qu'à ce moment-là, il valait mieux faire le segment que d'un côté pour éviter ce truc une nouvelle fois, quoi, parce que c'est ce qui s'était passé la semaine dernière, c'est ce qui se passe systématiquement quand Goldberg était revenu avec qu'il était allé le voir directement pour lui dire qu'il était le next. Ça aurait fait 3, je pense que ça faisait beaucoup, donc voilà, une seule partie qui fait la promo, alors du coup, c'est un peu juste, effectivement.
Allez, on quitte la ceinture masculine majeure pour rejoindre l'histoire et la division de la ceinture féminine majeure. Et on rejoint les filles. Alors, vous savez, à SummerSlam, hein, on va avoir droit à un triple menace. On va avoir droit à un Rhea Ripley versus Charlotte Flair versus Nikki H, la championne en titre. Ce soir, Nikki H et Rhea Ripley vont s'affronter. On nous a remontré des images de toute la semaine dernière de ce qui s'est passé avec Charlotte Flair. Rhea Ripley explique que rien ne va sauver Nikki H de la correction qu'elle va lui prendre, qu'elle va lui donner ce soir, et que ça sera à peu près la même qui va lui tomber dessus à SummerSlam quand elle va lui prendre son titre. Et on est parti dans un match, et un match de 9 minutes 30. J'ai regardé un petit peu sur les 2-3 derniers rows, le temps de catch donné aux femmes ces derniers temps était assez pauvre, malgré qu'on leur ait donné un ou deux main events au passage. Mais là, on a un match de quasi 10 minutes quand même. avec deux des femmes dominantes hein, de la division féminine, de toute façon. Bah, Nicky Ash, elle est dans ce rôle. Alors, grosse pop, hein, le public d'Orlando. Mmh. Nicky Ash, je crois qu'il a adopté. Hein. Il y a pas de, j'ai pas, à moi, je ne sais pas si tu as eu un son différent du mien, mon Géliel, mais très franchement, ça marchait du feu de Dieu. Elle va y tenter un peu toutes ses manœuvres habituelles. Elle va tenter son DDT pour coller un head scissor pour un compte 2-2. Elle va contrer une tentative de riptide sur un roll-up pour un nouveau near-fall. Ripley, du coup, elle va réussir à la coller au sol avant de l'asseoir dans un coin du ring. Nicky Ash, elle va réussir à la repousser. Et alors que la championne, elle voulait partir sur son diving crossbody, hein, qui va débarquer ? Charlotte Flair, au bout de ses 10 minutes, qui vient la faire tomber pour causer la disqualification. Là-dessus, Flair, elle va attaquer un peu plus, hein, Nikki. Ensuite, elle va coller un natural selection à Ripley et elle va finalement poser avec la ceinture au milieu du ring pour, après, la balancer sur le cadavre de Nikki Ash. Voilà, je crois que Charlotte a lancé un message clair et net. Alors, cette anecdotique victoire de Nikki Ash par DQ sur Rhea Ripley. Mais là, la baston est ouverte, j'ai presque envie de dire, la chasse est ouverte entre les trois filles d'ici les 2 semaines à SummerSlam, mon Géliel.
Oui, clairement. Et du coup, c'était bien qu'il y ait une interaction à trois, là. Alors, j'ai effectivement, là, Nikki Ash, elle est maintenant bien dans son rôle de face super-héros avec son costume, alors un peu ridicule au passage, mais bon, donc ça lui va bien. J'ai bien aimé aussi comment Rhea Ripley a évolué au cours du match, parce qu'au début, elle était quand même plutôt désabusée de devoir affronter Nikki Ash. On sentait qu'elle ne la prenait pas du tout au sérieux, ça se voyait dans sa gestuelle, et c'était assez intéressant comment ça a évolué au fur et à mesure qu'elle a commencé à prendre un peu des coups et puis des prises, et du coup le match est devenu assez intense puisque elle s'est mise vraiment dedans, Rhea Ripley, et après l'interaction avec l'arrivée de Charlotte qu'on a entendu un petit peu aussi venir, alors elle a pris soin d'enlever ses talons juste avant de mettre un big boot à Nikki, je crois. Non, je crois que c'est à Ripley qu'elle le met. Par contre, je pense qu'il y a 15 cm entre le pied et il a été un peu botché, celui-là. Ouais, on l'a vu un peu loin. Peut-être qu'avec les pieds nus, elle a peut-être eu peur de toucher vraiment. Je ne sais pas. En tout cas, ça s'est un peu vu. Et donc, sinon, c'est parti pour les trois, là. Sympa. Là, pour le coup... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit écrit d'avance. Enfin, en tout cas, dans ce qu'ils nous font croire. Et c'est assez plaisant, quoi. C'est assez plaisant. Entre ce que Nikki peut proposer, entre ce que Rhea a dans le coup, et puis toujours Charlotte au-dessus, ou au moins positionnée très haut. Ça fait une triple streak qui est sympa.
Eh bien, écoute, je suis aussi plutôt enthousiaste, quoi. Et de semaine en semaine, je trouve en plus que ça s'améliore. Donc je vais pas... Je ne vais pas me plaindre du tout sur cette affaire. Le match en lui-même était plutôt pas mal. Ça tenait bien la route. On a 10 minutes des filles avec une Rhea Ripley qui, pour moi, quand même, est la plus impressionnante à l'heure actuelle du fait de sa jeunesse en plus et tout. Il y a tellement d'avenir qui se profile pour cette fille que moi, je suis très confiant. Je suis vachement content de voir Nikki Cross dans cette position maintenant, quand on voit d'où elle sort, de NXT, de Sanity... à tout ce qu'elle a échappé et comment elle a mené son bout de chemin, là actuellement elle est championne et je trouve que ça marche, et auprès du public elle est over, il y a de la grosse pop là, le public d'Orlando il était aux anges avec Nikki Ash, donc écoute, si ça continue comme ça, ça va nous emmener jusqu'à SummerSlam joliment et je suis totalement confiant pour un triple threat de super qualité dans le plus grand show de l'été, quoi. Allons-y comme ça, quoi. Seul truc, c'est s'ils nous bookent systématiquement des DQ pendant 2 semaines en attendant que ça arrive, faudra peut-être un peu trouver un peu d'autres ficelles scénaristiques, tu vois, quoi.
Ouais, mais là, je sais pas ce qu'ils sont capables de proposer dans ce cas-là. Et sinon, oui, ce que je pourrais réagir à ce que tu disais, c'est que effectivement, là, Nikki, elle rivalise, quoi, par rapport aux deux autres. Ouais. Donc, elle est vraiment, ils ont réussi à nous la mettre aussi forte que les autres. Donc voilà, c'est pour ça que qu'elle est sympa cette triple threat.
Exactement. Donc on continue comme ça à Monday Night Raw. Allez, on finit avec les derniers segments. coulisses avant le main event. On aura une petite vignette qui sera très courte, mais qui c'est quand même qu'il faut vous en parler, peuple de catch-up. C'est la vignette sur Elias. Oui, Elias est de retour. Il est quelque part dehors devant un très joli feu de camp avec sa guitare normale devant un feu de camp. Et on revoit un peu au ralenti toutes les coups de guitare qu'il a pris par des superstars dans le passé. Et finalement, que fait Elias ? Sacrilège, il jette sa guitare au feu. Il nous explique que WWE veut toujours dire « Walk with Elias », mais que Elias est mort. Génial, ouais. Information, décès d'Elias.
Ah, ça, ben on n'était pas au courant, on nous a rien dit.
alors, donc là, repackaging, hein. Là, on a le droit, on va avoir un repackaging. Alors, Face, il... Et je serais curieux vraiment dans quel genre il va nous amener, le Elias.
Alors, quel genre, effectivement, ça ne va pas être évident à trouver. Par contre, je trouve que la vidéo, le package vidéo qui a amené ça, on voyait qu'il se faisait massacrer systématiquement par sa propre guitare, puisque c'est souvent ce qui se passait dans les matchs. Moi, je le vois bien arriver en heel plutôt qu'en face. Enfin, il ne va pas arriver avec... un violoncelle, quoi, tu vois, donc je le vois bien arriver en heel, très fâché d'avoir pris à chaque fois autant sur ce, alors qu'il, je pense qu'il voulait amener du bonheur avec sa musique, hein, ou quelque chose comme ça, mais plutôt en heel, moi, je le vois.
Ok, bah écoute, affaire à suivre. Allez, on termine, il y aura d'ailleurs Charlotte Flair, donc on va retrouver un petit coup en coulisses pour Sarah Schreiber va lui demander des précisions sur ce qui vient de se passer, et elle va nous expliquer qu'elle a trouvé, elle a vu une opportunité stratégique, qu'elle en a profité. Et que si Ripley et Nikki avaient été de son niveau, ils auraient anticipé cette attaque, pas de chance, et elle va nous faire le coup de nous rappeler son palmarès qui est long
<Again. rire>
avant de nous dire qu'elle va prendre le titre à SummerSlam, bien sûr. Bon, là la Queen elle est totalement dans son rôle de toute façon, donc c'est parti, on est bien chaud, ça y est, moi j'ai Liel, on est arrivé au main event. Kevin Patrick, yes. Juste avant il sera avec Randy Orton pour expliquer un peu pourquoi il prend ses distances avec Riddle et bon, la vipère, il est un peu évasif, il dit que c'est simple, qu'il travaille mieux tout seul, qu'il n'a pas besoin d'amis, de distractions pour battre AJ Styles. Et là, peuple de catch-up, Géliel, accrochez-vous, parce que quand même, on a un Randy Orton versus AJ Styles à Monday Night Raw, avec un AJ Styles qui est quand même champion par équipe depuis WrestleMania actuellement. Et on a donc un match là entre multi-champions, entre deux Grand Slam champions quand même. Et c'est quand même c'est alors deux grands Slam champions, j'ai un petit doute sur AJ Styles. Il a gagné l'intercontinental AJ Styles, peut-être pas, enfin en tout cas multitutré, hein, on va pas mégoter.
Oui, ça c'est sûr, ça c'est
ouais,
sûr,
c'est du multi champion qui est dans le ring là, c'est de la grosse story quoi, et c'est du lourd, un main event de Monday Night Raw, surtout après ce qui s'était passé la semaine dernière. Eh bien, écoutez, on ne va pas bouder notre plaisir. On va avoir droit à 11 minutes 20 entre ce Orton et ce Styles. Alors, AJ Styles, il est accompagné de Homos, bien sûr. Ça va s'envoyer. Alors, là, tous les deux déroulent en plus leur moveset qui, finalement, on les connaît tellement par cœur, tous les deux, que comme on les voit rarement catcher l'un contre l'autre, tout d'un coup, on se redit « Ah ouais, là, il va faire ça. Ah ouais, donc l'autre, il va faire ça. » quoi. Et on sent les contres arriver. C'est ça que j'aime bien, en fait, dans deux mecs qu'on connaît aussi parfaitement que ces deux animaux-là, quoi. Et du coup, ça donne un petit ballet de catch plutôt sympa à suivre. Orton, il va éviter quand même un phénoménal forearm parce qu'il n'est pas là pour déconner non plus. Il suit avec sa clothesline habituelle et son dropping DDT. Il va se positionner pour coller un premier KO, mais Homos va débarquer, bien sûr, va venir l'interférence et va venir éloigner Styles du feu qui lui arrivait. Riddle, là-dessus, va débarquer et va envoyer Homos contre le poteau pour lui sauter dans le dos et pour lui tenter un sleeper. Pas super, super bonne idée hein, quand même, parce qu'il va se faire balancer comme un fétu de paille. Pendant ce temps, Orton va poser son RKO au moment où Styles allait tenter le phénoménal forearm. Alors là, c'est dommage parce que tu me diras ce que t'en as pensé. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, ou une vipère, au choix. Le move aurait pu être super beau, mais quand Styles arrive, en fait, il est très bas par rapport au tapis.
Ouais, il est un peu bas, exactement.
Et du coup, visuellement, ça rend pas terrible, terrible, quoi. Mais même si AJ vont bien derrière, mais bon, c'est la prise a un petit chouille de retard et c'est dommage, visuellement, ça gâche un tout petit chouille, quoi. Bon, Riddle va quand même venir ensuite sur le ring. Victoire, donc il faut quand même 1, 2, 3, victoire de Randy Orton, donc sur ce compte du Phenomenal Forearm, avec le RKO. Bah, Riddle, il débarque sur le ring et il propose direct un câlin hein, à Orton. Hein, il veut ça et le public veut à fond. Le public est au taquet à ce moment-là. Quoi. Je peux vous dire que là, c'est over de chez over. Le public demande un truc en mode best friends. Et Riddle a d'ailleurs ne se manque pas hein, pour le souligner à Orton et pour lui dire mais regarde, mais écoute, écoute un peu ce que veut la foule, quoi. Écoute ce que veut le public, quoi. Et finalement, la vipère accepte. Orton va ensuite lever le bras de Riddle et il va lui coller un gros RKO d'enfoiré à la mode en restant juste au-dessus de son adversaire après le RKO avec un sourire mi-amusé, mi-décontracté, j'ai presque envie de dire. Voilà, un RKO tranquille, au calme. Voilà, et ainsi se termine ce Monday Night Raw. Alors, mon Géliel, là, on a eu un Monday Night Raw entre de multi-champions. Déjà, ça fait plaisir d'avoir ça dans le ring. Plus Omos et Riddle qui sont intervenus comme il fallait. Ça nous change de ce qu'on a vécu la semaine dernière.
Ouais, et c'est un main event de très bon niveau, hein, franchement. Et ça fait effectivement plaisir de voir deux mégastars comme ça, deux superstars comme ça. Et je suis d'accord sur ce que tu disais là par rapport au contre. C'est parce qu'en fait, ils sont d'un tel niveau qu'on s'attend pas à ce que les finishers ou que les grosses prises passent systématiquement. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que c'est aussi agréable de voir ce style de match-là où ça contre, c'est technique. Ils se sont envoyés sévères. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait que bouffer des glaces pendant six semaines, Orton, hein, parce qu'il est, il est assez fit. Tu t'as pas parlé de sa petite moustache qui était...
Légère moustache.
Qui change un peu la tête qu'il a, du coup. C'était assez, assez drôle. Non, le match est vraiment super sympa. La fin avec Omos, l'arrivée de Riddle. Et dommage, effectivement, que ce RKO soit pas aussi aérien qu'on aurait aimé. Pour moi, en tête, ça reste quand même le RKO sur... à WrestleMania sur Seth Rollins là qu'il avait fait alors qu'il se préparait un curbstomp là, je sais pas si tu t'en souviens.
Ouais.
Et il avait placé un RKO d'anthologie là-dessus Orton et c'est effectivement quand c'est pris un peu plus bas, c'est tout de suite moins spectaculaire. En tout cas, il fait la victoire et derrière bah enfin franchement, il y a bien que Riddle qui était persuadé qu'il allait pas se prendre un RKO parce que on le sentait venir depuis un petit moment. Et donc ça boucle bien la fin du match, la fin du show et le petit sourire comme tu disais de Orton, mi amusé, mi content d'être là. Il y avait un peu du kiffé, un peu du hors kiffé dans tout ça. C'était assez sympa.
Ouais, ça nous permet d'avoir un gros main event de Monday Night Raw et ça fait du bien. Mais comme c'est un truc qui fait super du bien aussi, c'est d'être rejoint au comptoir du studio de Catch Up. Il me semble qu'on a notre ami Ringside en ligne. Allô, Houston, ici Studio Catch-Up.
Allô, check, 1-2, 1-2, vous m'entendez?
Ah, 1-2, check Charlie, check Charlie.
Check.
Copy, yes, I copy.
Bonjour les amis, comment ça va?
Bonjour mon bon Ringside, comment ça va et toi?
Ben, ça va,
hello,
ça
Ringside.
Va. Hello Géliel, comment que c'est? On tient la boutique pendant que les autres sont en vacances?
C'est un peu l'idée.
Mais tu fais ça merveilleusement bien, avec ta magnifique voix. Je viens de finir Monday Night Raw. Alors je me suis dit, tiens, j'ai vu qu'il y avait la lumière au studio. Je me suis dit, tiens, je vais passer, voir où ils en sont.
Formidable,
Mais j'ai l'impression que vous venez de terminer le main event, quoi.
Exactement, ouais, t'arrives au bon moment. Du coup, tu vas pouvoir parler du main event et puis après faire un beau top flop note qui te servira d'analyse, mon ignoble Ringside. Alors, ce main event, là, Randy Orton versus AJ Styles. Ils n'ont pas déconné, là, cette semaine, à Monday Night Raw, non?
Ah, ils ont mis les petits plats dans les grands. Hein,
ah,
on va dire, hein. Effectivement, une belle affiche. Le multi-champion Randy Orton, le multi-champion AJ Styles, face à face. Moi, c'est une affiche que je kiffe plutôt bien. Il y a le petit Riddle dans l'histoire, Homo sur le côté. Puis ça se termine par ce joli RKO. Bon, on en a vu des plus beaux, effectivement, comme vous disiez, mais c'est quand même assez spectaculaire. Là, on a eu des matchs assez spectaculaires toute la soirée, hein, j'ai l'impression. Voilà, l'histoire qui continue avec le RKO final sur Riddle. Mais finalement, si je comprends bien, c'est pas une trahison, c'est juste un bizutage, on va dire.
Une piqûre de rappel.
Voilà, une piqûre de rappel à RKO de réconciliation. La RKO-ciliation. Voilà, bah c'est plutôt sympa, surtout que moi je suis assez enthousiaste d'avoir une affiche AJ Styles Omos contre Riddle et Orton à SummerSlam. Donc c'est plutôt sympa pour terminer un show qui était quand même un petit peu une redite des semaines précédentes. Mais,
Ouais, comme souvent à Monday Night Raw.
ouais, c'est un peu le lot de Monday Night Raw en ce moment, qui a un roster qui est bien réduit hein, après les différentes... relâchement de personnes hein, qu'il y a eu, libération de contrats. Et ouais, du coup, on a un roster qui est un petit peu exsangue, mais on sent qu'ils bah, ils veulent garder des mecs qui sont assez baraques ou qui ont du star power. Et du coup, bah, quand on fait un petit match Randy Orton et AJ Styles pour terminer, ça fonctionne plutôt bien.
Ah oui, ouais, je suis assez d'accord. Enfin, on était globalement d'accord avec GG sur cette affaire. Bon, bah, écoutez, c'est très bien. C'est formidable. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va se lancer sur le top flop note. Et puis, bah, écoute, bon bah, Ringside, hein, c'est avec toi qu'on va commencer, parce que comme ça, tu vas nous faire une petite analyse générale de tes sensations sur Show Rouge, surtout si tu sors du visionnage. Là, en plus, là, c'est vraiment à chaud de chez chaud.
Ouais.
Donc, profite, tu es chaud. Donne-nous ton top flop note.
Ah, le flop, je suis obligé de le donner à Alexa Bliss et sa poupée qui fait des clins d'œil.
Ah.
C'est quand même délicat, hein, ça. Hein. Si vous avez plus de 8 ans, je sais pas trop comment vous pouvez apprécier ce genre de truc, à part que elle a une jupe assez courte, on est content. Eva Marie, elle est sexy. Voilà, il y a quand même un petit push de comment elle s'appelle, de Doudrop.
Doudrop.
Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Voilà, qui peut amener à quelque chose d'autre derrière. Mais franchement, ouais, moi, ces trucs de fantastique là et de montage à la con. Mais le public a l'air de plutôt apprécier, donc je suis un peu perplexe. Je pense on risque de s'en manger un petit peu. Je pense que c'est un projet Bruce Prichard, ça, hein, c'est un peu dans la lignée de ce qu'il faisait avec Kane, avec les grandes heures de l'Undertaker. Mais ouais, comme je dis, si on a plus de 8 ans, c'est quand même délicat. Pour le top,
Ça me fait marrer que tu dis ça parce que là, quand même, les deux en train de commenter ce Monday Night Raw à la base, c'est là à nous deux, là, c'est vraiment un duo d'ancêtres. Il y a presque 100 ans qui vous regardent du haut de cette review. Alors, bon, là, avec ton arrivée, Ringside, on vient de péter tous les scores. On passe en triple frite, donc on est quasiment à 140 ans là.
C'est ça.
Et donc, bon, là, effectivement, là, on peut pas avoir une triple frite gériatrique plus que celle-là.
À notre prochain projet, c'est un podcast sur Derrick. Hein, si les infos sont bonnes. Derrick Rex.
Génial, tu parles l'allemand ?
Sous la torture, uniquement.
Jawohl. Ouais, alors le top. Je me retrace un petit peu l'émission dans ma tête. Ouais, bah le top, je vais le donner au main event, le retour de Randy Orton qui fait mouche. Ça fonctionne bien. Le reste, il y a quand même eu beaucoup, comme je disais, de redites. Le match Mansour et compagnie contre les Dijak et compagnie, là, c'est... Ouais. En plus, ça voit que c'est Dijak qui fait tout le boulot, quoi. L'autre, il catch plus du tout.
Ah ouais, non, mais l'autre, il est catastrophique. L'autre, ouais, je comprends pas.
Il est pas prêt, mais ils veulent des grands maintenant. Hein. Ils veulent des baraques, ils veulent des costauds. J'ai pas été vraiment convaincu par le Jeff Hardy contre.
Ouais, on en a parlé.
Karrion Kross. Le match était chouette quand même, mais le final, ça va pas. Sa prise de finition, Karrion Kross, ça va pas. Hein. Il faut qu'il revienne à ses...
Ah, déjà, quand il la met une fois, c'est chiant. Mais alors, quand il la met deux fois... Oh là
ouais, y a pas... C'est pas comme Samoa Joe, quand t'as l'impression qu'il est en train de tuer le gars. Là, on sent pas de danger pour la personne en face. C'est pas... Il faut qu'il change de prise. Il faut qu'il change de prise de finition. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Karrion Kross. Je pense qu'ils sont à côté, là, en ce moment. Ils n'ont peut-être pas fait débarquer au bon moment. Ils ont peut-être pas fait ce qu'il fallait. J'aurais préféré par exemple qu'il démonte Jeff Hardy en coulisses là, pour son retour, un truc comme ça, plutôt que faire un rematch. Ouais, j'ai pas l'impression que ça accroche avec le public, donc il y a encore du boulot, je pense, pour lui. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans notre musette? Je crois qu'il y a Bobby Lashley qui est venu, mais je me souviens plus du tout de ce qu'il a dit.
Il a dit qu'il fallait qu'il vienne, pas Goldberg.
Ouais, voilà,
grosso donc, modo.
Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, on a le Miz qui remarche, mais j'aime pas trop tout ce qui se passe quand même. J'aime pas trop le Miz en ce moment, je trouve qu'il aurait dû prendre des vacances. Le truc avec les trucs pour asperger d'eau, là, bon, les plus courts sont les meilleurs, hein, donc il faut peut-être arrêter, passer à autre chose. Je trouve que Damien Priest, il s'en sort vachement bien quand même, malgré qu'il soit quand même, je trouve, dans une rivalité un peu pourrie avec John Morrison, mais voilà, ça va partir sur Sheamus, j'espère qu'ils vont faire un gros match. Il y a moyen de faire quelque chose, ça fonctionne bien là, Damien Priest, il est bien populaire, il mais est oui. bon en promo, il est charismatique, oui. il a la voix, il sort un bon
mais
catch.
Oui.
Voilà, on est d'accord.
Mais ah non, oui. bon. Depuis... Écoutez le bon, ouais. écoutez la voix du ringside, écoutez là.
C'est ça. Ouais, mais moi de toute façon, ouais, Damien Priest depuis, moi je l'avais vu démarrer hein, à la Ring of Honor. Je me suis dit ce mec-là, il faut qu'il aille à la WWE. Hein. Il avait un catch qui était compatible à la WWE. Voilà, punishment de Martinez comme on l'appelait. Il avait un gimmick façon Undertaker, façon Aleister Black, qui collait pas trop à la Ring of Honor. Voilà, on sentait que le mec, il fallait qu'il aille à la WWE. Je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt top. Et je pense qu'il va graver les échelons doucement, mais sûrement. En plus, il a une super voix quand il fait les promos, là. Et il est super à l'aise dans le ring. Donc, je vois de grandes choses.
Quand il appelle Sheamus à la fin, là, quand il prend le micro à la fin, qui se met devant les cordes, là, et qui dit « Ouais, Sheamus, là, hein, will live forever, bah, pas tant que ça. » Je vois, l'amiral l'imitait très bien.
Ouais, et je trouve qu'il est plus à l'aise qu'il fait plus naturel que Drew McIntyre dans ses promos de Babyface.
Ouais, puis il se permet quelques mots en espagnol, il est, tu vois, il est à l'aise, quoi. On sent qu'il est tranquille. Oh,
il est bien dans l'air du temps, il est bien, ce qu'il fait.
Moi, je sais pas vous, mais il m'a rappelé sur certaines mimiques, sur certaines. Quand il va chercher le public, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a certains moments, alors, de toute mesure gardée, mais j'avais l'impression de voir du Rock sur certains, par petits moments, sur ce qu'il disait, sur ce qu'il faisait. Et c'est pour ça que je trouvais ça sympa, vraiment
dans
sympa.
Le côté, ouais, il a un côté super naturel que les autres n'ont pas, hein, personne n'ont beaucoup. On sent qu'il joue un rôle qu'il maîtrise plus ou moins, une gimmick qu'il maîtrise plus ou moins, mais lui, il a l'air d'être vraiment à l'aise et vraiment naturel. Donne de l'espoir pour l'avenir.
J'étais déjà convaincu à NXT qu'il était bon au micro, quoi, et il a fait que confirmer. Et moi, on en a parlé avec Géliel plus tôt, mais pendant WrestleMania et avec cette feud avec Bad Bunny, etc., il a tenu la route grave. Il a chopé un énorme spotlight. Et si on fait le bilan de son année 2021, là, on est en août et ça se passe plutôt pas mal pour Damian là, pour l'instant. Quoi. Et puis, si tu veux, je pense que légitimement, à terme, si c'est pas SummerSlam, ça sera peut-être après, mais déjà, il va choper le titre US là. Déjà, ça, tu vois, c'est la prochaine breloque qui va lui tomber sur les hanches. Mais moi aussi j'aime beaucoup, Géliel aime beaucoup, Ringside aime beaucoup, Peuple de Catch-Up, on est gâtés avec Damien Priest.
C'est ça. Et juste pour terminer un peu sur mon résumé du truc, Drew McIntyre, il faut faut plus qu'il ait de période où il se fait dominer dans un match, parce qu'il perd le public, il faut qu'il le remonte comme une machine. Après tout, il a battu Brock Lesnar, il a gagné le Rumble, ce serait pas déconnant qu'il défonce tout le monde à la façon de John Cena, quoi. Chaque semaine, parce que les gens veulent le voir péter des gueules, ils n'ont pas envie de le voir en difficulté. Faites-moi un Drew McIntyre fort et costaud comme vous avez fait avec Bobby Lashley. Je pense qu'on est sur de bonnes rails parce que les gens quand même l'aiment beaucoup. Mais il faut éviter de faire des trucs avec son épée là et des moments où il se fait dominer par un Baron Corbin qui sort du caniveau là. C'est pas. Là,
surtout on sent par Corbin quoi.
Ouais, surtout par Corbin. On sentait vraiment que le public. Il avait lâché le match quand Drew McIntyre était en train de se faire dominer. Et quand il a repris les commandes, qu'il a commencé à faire des souplesses dans tous les sens, là, les gens étaient déjà contents. En fait, on veut le voir démonter des gueules. Hein.
Ah bah ouais,
McIntyre, on n'a pas envie de le voir en difficulté face à un tocard comme machin. Il faut qu'il démonte aussi notre ami Jinder Mahal là, à SummerSlam, bien comme il faut. Puis défonce les deux autres aussi. Et puis qu'ils repartent vers les sommets, quoi. Parce que ce serait quand même dommage de passer à côté de Drew McIntyre après tout ce qu'ils ont fait. C'est mon conseil pour la suite. Et puis, la note, je vais donner un 3 d'encouragement. C'était pas non plus sensationnel. On a eu un bon main event, mais c'est beaucoup la redite des semaines précédentes. J'ai peur que ce soit le cas encore pendant au moins jusqu'à SummerSlam. Mais au moins, on a eu un bon main event. Faut que ça continue comme ça. Essayer de renouveler un petit peu les matchs qu'on a dans les weekly. Et puis, on s'en sortira peut-être après ces rows interminables. Hein. Moi, j'en peux. Mais bon, heureusement que le public est de retour. Voilà, je vous laisse la parole. À vous, les studios.
Ah, alors, L'archange Géliel, son top flop note, ça va donner quoi?
Alors, mon top, je vais le donner. J'aurais pu le donner au match. En fait, j'avais deux choix. Soit le match chez Mus Ricochet que j'avais beaucoup aimé. Mais je vais le donner à Damien Prest, que, enfin voilà, j'ai trouvé vraiment super sympa et je trouve qu'il arrive, il a une espèce de plénitude maintenant dans ses promos, dans son jeu, dans son interaction avec le public et c'est hyper sympa. Donc voilà, il a mon top. Le flop, Alexa Bliss, la poupée, tout le bordel quoi, c'est à oublier quoi, franchement.
Oh là là.
En plus ça marche pas quoi, ça ne marche pas, ça marche pas. Donc voilà, et puis
elle a eu droit à des We Want Wyatt.
Y a une partie du public qui veut le retour de Bray Wyatt. Ne me demandez pas pourquoi, mais.
et voilà. J'aurais bien vu Edge Styles qui venait aussi lui dire que c'était embarrassant, tout le truc, mais il n'est pas venu leur dire, j'aurais aimé.
Ouais.
Ouais, faut arrêter les filles. Mmh. Et puis la note, alors c'est un peu les montagnes russes, c'est-à-dire que là sur celui-là d'Euro, alors c'était souvent très bas. Là, il y a quand même eu des bons moments entre l'arrivée de Orton avec le retour, même le match de Drew McIntyre, c'était bien parti. Puis après, alors moi, Karrion Kross, Bliss, tout le reste, là, je suis sorti. C'est remonté un peu avec la partie Sheamus, c'est redescendu avec la partie T-Bar et Mace, là, qui est complètement sans intérêt. Et c'est remonté un peu. Donc c'est vraiment les montagnes russes, mais dans l'ensemble, globalement, j'ai passé un bon moment. Donc je vais mettre pareil que toi, Ringside, un 3 d'encouragement.
Okay. Et pas bien. Du tout de Charlotte alors cette semaine.
Ah bah si, il y a eu de la Charlotte.
Ah bon, elle est passée? Ah bah je l'ai pas vue. À quel moment?
Elle est passée à côté de la tête de Rhea Ripley avec son pied. Ça on l'a vu.
Ah bah écoute, j'ai aucun souvenir de ça. Je sais pas si je l'ai vu dans ma version. Bon bref. Autant pour moi.
Elle est venue causer la disqualification entre Nikki et Rhea Ripley.
Ah bon, il y a eu ce match-là. Putain, j'ai rien vu. Alors bon, je jouais au poker en même temps. J'ai peut-être coupé une partie, mais bon, il fallait que je sois concentré.
Bah, t'as 300 000 dollars à trouver pour Byron Corbin, donc faut.
Voilà, c'est ça. Je suis en train de financer mon voyage pour WrestleMania l'année prochaine. Faut pas que je loupe une main.
Et pour la petite info, d'ailleurs, on parlait de Damien Priest là, mais Damien Priest, faut savoir, il a eu un dark match après le Monday Night Raw et on lui avait choisi un partenaire hein, et pas un partenaire de n'importe quoi. Hein, on lui avait choisi John Cena, les amis. Hein.
Ah ouais,
le dark match. L'après-Raw d'ailleurs a été un peu fou puisque John Cena a rejoint Orton et Riddle sur le ring.
Waouh! Wow,
voilà quoi, avec en mode Oh my god! Et le dark match qui a suivi donc a été Damien Priest, John Cena versus Jinder Mahal et Veer. Et évidemment les Babyface ont gagné tranquillou.
Bravo.
Milou.
Pourquoi on n'y a pas droit à ça?
Bah, c'est dommage. En dark match, le kick-off en fait, kick-off dark match, c'était Kisly qui affrontait Chico Adams. Est-ce que vous connaissez ce garçon, mes amis?
Chico Adams.
C'est ridicule. Hein,
mais qui est cette personne?
Ceci n'est pas un exercice.
Chico Adams, le célèbre catcheur brésilien-mexicain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ah ouais, je sais pas c'était quoi cette affaire, mais voilà. Bon allez, moi mon top flop note. Bon, je vais essayer de pas faire trop redondance avec vous. Donc, je vais éliminer Alexa Bliss, du drop et compagnie. Hein, je l'ai déjà assez donné en plus, quoi. Et j'hésitais en fait entre Karrion Kross, Hardy, mais je vais le donner. C'est Ringside qui a mis le doigt dessus, d'ailleurs, je pense. Et ben, ça va être, c'était un segment tout rincé, et c'était le cas de le dire puisque moi, je vais donner mon flop à toute cette partie là de Damien Priest, John Morrison. Où il prend les trucs de jet et qu'il fait une fois, deux fois, trois fois, ça s'arrête pas. Justement, Damien Priest, je me dis, mais non, mais pourquoi il t'en me voit dans cette galère-là, là, à faire ces trucs tout pourris, là, et vraiment, ça, je trouve ça, mais pff, oh là 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 là, mais non, faut arrêter avec ça, voilà. Il faut que ça s'arrête, cette affaire-là, et qu'on repasse à du vrai catch et que Damien Priest, on le mette dans des trucs sérieux. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'il va faire chez Sheamus. Donc tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et puis, top, bah, ça sera quand même le main event hein, malgré tout. Waouh, ça fait du bien d'avoir un bon gros main event à Monday Night Raw, quoi. Vraiment, là, je commençais à désespérer ces dernières semaines, voire ces derniers mois, parce que c'était tellement inégal et c'était voilà, là, 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 là. Donc là, on nous met quand même deux mecs multi champions. dans un truc sympa avec tout un fil rouge qu'il y a eu en plus pendant ce Monday Night Raw avec Riddle. Donc tout ça, c'était plutôt bien construit pour, sur le show en lui-même. Et c'était plutôt cool quand ils font ça. Alors, il y a beaucoup d'indigestion dans ce Raw. Il y a beaucoup de trucs. On nous remontre telle et telle et telle et telle et telle chose qu'on nous a déjà remontré la semaine d'avant. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu lourd. Il y a des matchs qui servent à rien, qui durent 2-3 minutes et qui servent à rien. Même le Priest, John Morrison, même si j'aime bien Damien Priest, au final, pour leur donner un match de 4 minutes et pour nous donner ce truc-là, bah, alors que derrière, on termine avec Nikki Ripley en 10 minutes et un main event de 12 minutes. Bon, ils se sont un petit peu sortis les doigts ce lundi. Donc moi aussi, je vais être dans l'encouragement. Et j'étais bien parti pour leur mettre un 3 également. Alors, on a une triple frite à égalité totale, incroyable. Et je vais effectivement terminer avec un 3. Wow.
Encouragement.
Il se passe quelque chose à Monday Night Raw, les gars ?
Ouais, de temps en temps. De temps en temps. Et je suis en train de regarder Chico Adams, croyez-le ou non, mais on dirait un Allemand. Hein. Il a un physique de viking, hein, si vous voulez.
Ok.
Donc voilà, une carrière. Il a pas mal bossé à la VXV, justement, chez les Allemands.
D'accord. Et donc il a un nom totalement en adéquation avec son look, alors.
Bah oui. C'est pas. Ouais.
C'est cool. Voilà. En tout cas, ce Monday Night Raw se terminera sur deux matchs officialisés ou un match. Non, on aura Sheamus, Damien Priest. Ça, c'est sûr dorénavant sur la carte de Raw à SummerSlam. Et on peut s'attendre à quoi là maintenant le tag team là maintenant le tag team ça sent quoi les gars là ça sent Riddle Orton face à AJ Styles et Homo ça SummerSlam je vois pas
oui ça c'est officiel ça, je pense
c'est quasiment dans le marbre ça quoi
oui puis qu'ils prennent les ceintures et puis voilà.
Il faudra voir ce que ça donne, comment Riddle va réagir un peu au RKO et à la petite fessée qui s'est pris, mais ouais ça c'est bien écrit là quand même, ça c'est bien écrit.
Oh, il va prendre ça à la cool je pense quoi. Après, la carte de Raw, finalement, elle est presque écrite. On a pour le titre US, le titre suprême, pareil, c'est joué entre Goldberg et Lashley. Chez les filles, c'est le triple menace. La ceinture par équipe féminine, de toute façon, qui est sur les deux brands, ne sera pas défendue à SummerSlam en raison de la blessure de Natalia, normalement. Du coup, il reste quoi à Raw ? Il ne reste pas grand-chose. Hein. Il reste Drew McIntyre versus Jinder Mahal. Et puis, il va y avoir un autre match sur la carte de Raw, je ne sais même pas trop ce que ça serait, quoi, en fait. Vous êtes perplexe aussi.
Alors, le match US, on l'a fait. Ouais, je sais pas s'il y aura un truc avec les Mansour et Mustafa Ali, mais ouais, ça fait dans le kick-off quoi.
Ah ouais, effectivement.
Si, il y aura peut-être, il y aura peut-être un truc avec Kifli ou peut encore placer un petit Kifli dans l'histoire. Il y a Karen Cross qui est là. Est-ce qu'ils vont faire un petit match d'exhibition ou un truc comme ça?
Ah, il y a TakeOver 36. Je pense pas que Karen Cross soit sur la carte de SummerSlam.
Ah ouais, il sera.
Non, c'est vrai. Ouais, il sera à TakeOver.
C'est vrai que ça existe encore, NXT.
Donc, on peut presque considérer que Monday Night Raw, c'est presque bouclé la carte pour SummerSlam. Et on. Ouais, c'est.
C'est peut-être pour ça que ça patine un petit peu, parce que la carte est déjà bookée.
C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il reste encore 15 jours en plus. Donc il va falloir les tenir les 15 jours avec des trucs qu'on voit d'une fois sur l'autre.
Ça va peut-être être les portes ouvertes pour John Cena et Goldberg pour venir vers des grosses promos un peu qui font le buzz.
Ouais, peut-être.
Avec du trash talk et du shoot, des shoot promos, choses comme ça.
Ouais, c'est tout à fait possible. Ouais. Eh bien écoutez, vous en saurez plus. En continuant à nous suivre, hein, ça sera le plus simple finalement, hein, c'est de venir écouter nos reviews. Vous aviez en ligne déjà le SmackDown de vendredi là, qui est là, qui est tout chaud, qui est prêt avec El Patron et avec moi-même. Et on vous avait fait la semaine dernière un peu en catastrophe, un super catch-up où on vous avait glissé deux. Alors on a fait ça en toute simplicité hein, puisqu'on a fait 2h25, hein, donc tranquille. c'était un super catch-up qui portait bien son nom. Donc voilà, donc tout ça, c'est déjà en ligne. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Allez activer la cloche, laissez des commentaires, laissez-nous des likes. Vous pouvez nous retrouver sur le site officiel catchup.lepodcast.fr. La communauté catch-up sur Discord. Les liens sont dans la description. Et toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcasts, Podcloud, Spotify, Deezer et Google Podcast. Il ne me reste plus qu'à remercier cette magnifique triple frite finalement, qui c'est un tag team qui s'est transformé en triple frite et qui a terminé en fanfare. Mon bon Géliel, je te remercie d'avoir été fidèle au poste dès l'ouverture de cette review.
Eh ben, écoute, je te remercie également, tonton.
Mon bon Ringside, je te remercie de nous avoir rejoints, d'avoir trouvé le chemin et d'avoir vu la lumière dans le studio.
Ben, merci d'avoir laissé la porte ouverte. Sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma soirée. Mais aérer dans les couloirs du studio.
C'est Papy qui barricade le studio, quoi. C'est pas possible, quoi.
C'est ça. Oh, merci, c'était un plaisir hein, d'intervenir rapidement pour cette fin de,
ouais, cette fin de
chronique.
Allez, on vous laisse là-dessus. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge. Plein la face. Salut Géliel.
Salut Tonton, salut Ringside.
Salut Ringside.
Salut Tonton, salut c'est Géliel, salut à tous.
Et salut peuple de catcheur.
On sait où faudrait écrire pour ne plus avoir Bliss et remplacer ça par les Dark Match ou pas? Comment ça se passe?
Il y a un mail, VVE. Écrire à Triple H, qui transmettra.
Je vais essayer de trouver alors.